Découverte, initiative écologique, parlons nature, une émission de résonance sonore.
Là, c'est le pic noir. Incroyable. Alors, je sais qu'il traîne dans le coin, là. C'est lui qui vient de nous passer au-dessus, là. Donc, on va descendre. On va voir si on peut le contacter. Je recherche, avec Céline, on recherche où il niche. On sait qu'il niche dans le secteur. On l'entend parfois. Mais là, superbe. Hein.
Donc, je suis Florence Couton. Je suis ornithologue. L'ornithologie, c'est tout ce qui a trait au comportement des oiseaux, à l'identification et au comportement des oiseaux.
Donc ici, Florence, on est dans une petite forêt près de Saint-Sulpice, la Pointe, dans le Tarn.
Oui.
Et on est dans un camp, en fait, où tu as l'habitude de te retrouver avec des enfants pour faire des sorties ornithologiques, en fait. Donc vous avez installé un petit campement au milieu de la forêt avec des rondins de bois. Et alors du coup, est-ce que tu peux me dire quel type d'oiseaux on va retrouver ici ?
Alors ici, on va retrouver d'abord tous les passereaux. Ça, c'est de loin les plus nombreux, en fait. Les passereaux, c'est tous les petits oiseaux chanteurs. Hein. Donc, comme le pouillot véloce, qu'on peut entendre, la fauvette à tête noire, le grimpereau des jardins, la citelle torche-peau, la mésange bleue, la mésange charbonnière, la mésange à longue queue, qui a changé de nom, qui s'appelle maintenant orite. Tous ces petits oiseaux chanteurs, le merle, bien sûr, la grive musicienne, une belle diversité de passereaux, des pics aussi, le pic mahar, le pic épêche, le pic épêchette, le pic vert et le pic noir. Donc ce sont les 5 espèces de pics qu'on peut rencontrer dans la région et elles sont présentes dans ce bois. Et puis parfois on voit également chasser au-dessus des prairies le majestueux circaète Jean Leblanc, qui est le plus grand rapace qu'on peut observer ici en période de reproduction, qui fait 1,80 m d'envergure à peu près.
Est-ce que tu peux me décrire la buse ? Parce que moi j'ai l'impression d'en voir plein des buses. À chaque fois que je vois un rapace, je me dis tiens, c'est une buse, mais en fait je ne sais pas exactement à quoi ça ressemble.
Alors la buse variable est confondue avec tout un tas d'autres rapaces. Et pour beaucoup de gens, effectivement, un rapace c'est une buse. Ce n'est pas forcément facile, quand on ne connaît pas les oiseaux, de distinguer la buse d'autres espèces. La buse est de loin le rapace le plus commun avec le faucon cresserelle. La buse variable, c'est un rapace de 1,30 m d'envergure aussi à peu près. Et comme son nom l'indique, variable. Parce qu'en fait, il ne faut pas s'attacher à la couleur du plumage, parce qu'il y a des patterns complètement différents chez les buses. On peut observer des buses très très claires, toutes blanches en dessous, avec juste un petit liseré noir sur le bord de fuite des ailes et puis une petite virgule noire aussi au niveau des coudes. Et puis des buses qui sont très très sombres. Chaque buse en fait a un plumage différent. Au niveau de sa silhouette, c'est un rapace qui est assez rond. Les ailes sont par exemple plus courtes que les ailes du Milan noir ou celles du Milan royal. Une queue aussi bien arrondie lorsqu'elle est déployée, lorsqu'elle est ouverte. On la reconnaît également à son type de vol. Les oiseaux en vol plané adoptent une position au niveau des ailes différente suivant les espèces. La buse variable a nettement, quand elle plane, les ailes, elle fait un V vers le haut. Alors que d'autres espèces, comme le milan noir, ont les ailes légèrement vers le bas.
Les rapaces qu'on voit le long de l'autoroute, là, qui sont perchés, c'est toujours les mêmes ou c'en est à chaque fois des différents ?
Alors oui, les rapaces qu'on voit perchés sur des piquets de clôture ou le long des autoroutes ou des routes, c'est très très fréquemment la buse variable. Elle est là à l'affût, parce qu'elle a un régime, elle chasse la buse, mais elle est aussi charognarde, elle va pouvoir manger des proies mortes. Et donc elle est là à l'affût, soit d'un petit campagnol, d'un gros insecte aussi, ou d'une proie morte qui va se faire écraser. Donc un rapace assez rond, assez gros, perché sur un piquet, sur un bord de route, effectivement c'est une buse. Le faucon cresserelle aussi, on peut l'observer comme ça, perché, alors lui souvent un peu plus haut, plutôt sur les poteaux électriques ou poteaux téléphones. Hein. Le petit faucon cresserelle qui lui est plus petit, un peu plus coloré, la tête bleutée, gris ardoisée, et puis le dessus du corps roux.
Et le faucon cresserelle, il est remarquable, on va dire, à son vol planant quand il va attaquer une proie, ou c'est comme ça qu'on le... Moi, c'est comme ça que je le reconnais, en tout cas.
Tout à fait. Alors, le faucon cresserelle a un type de vol particulier. On dit qu'il fait le vol en Saint-Esprit. C'est en fait un vol sur place, où il fait un affût aérien, en fait. Il est comme suspendu, voilà. Et il va se maintenir en battant des ailes, en faisant un battement assez rapide. Et il scrute le sol pour repérer sa proie et fondre ensuite dessus. Alors là, on a entendu un oiseau qui fait chip-chap, chip-chap, chip-chap. Il s'appelle le pouillot véloce. C'est assez rigolo parce que c'est quand il y a des chants d'oiseaux dans un film, sur la bande-son, on entend toujours le pouillot véloce. C'est un peu un oiseau star pour les bandes-son de films. Alors le pouillot véloce, en chip-chap, chip-chap, justement, quand on apprend les chants d'oiseaux, c'est un des premiers qu'on arrive à mémoriser, qu'on apprend, parce que sa gamme est peu étendue, donc il fait simplement chip-chap. Et c'est son nom en anglais d'ailleurs, le chip-chap.
Et ça c'est quoi? C'est le pouillot véloce, le chip-chap. Tu vois, le ventre est clair. Là, le ventre clair et le dessus plus brun. Puis un petit sourcil blanc. Donc là, c'est un poste de chant. Oh, le pic! Et ça, c'est le tambourinement du pic noir. Ce gros tambourinement très sonore. Incroyable. Donc ça, les tambourinements, c'est une manifestation aussi de marquage de territoire. Parce que les pics, on ne peut pas vraiment dire qu'ils chantent, hein. C'est... plutôt des cris, mais pour marquer leur territoire, ils vont être à la recherche d'arbres creux avec une bonne sonorité, et donc c'est ce qu'on vient d'entendre. Après, il y a les martèlements, là c'est autre chose, c'est pour soit creuser la loge pour le nid, ou alors décoller l'écorce, ou rechercher des larves dont ils se nourrissent dans les arbres morts. Mais là, ce qu'on vient d'entendre, très très sonore, faut savoir que l'arbre, il est recherché pour ça, quoi, pour sa sonorité.
Et du coup, tu sais, on voit toujours le pivert, on l'imagine toujours en train de taper dans le tronc d'arbre. Et du coup, quand il martèle quand même, c'est pour quoi? C'est pour marquer le territoire, pour chercher à manger, ou c'est...
Ah ben le martèlement, c'est pour chercher des larves. Donc c'est pour décoller du bois, et le tambourinage, là c'est pour faire du bruit, faire du son, pour marquer le territoire.
Le rouge-gorge, c'est pas une espèce forcément facile à reconnaître à son chant. Quand on débute en ornitho, peut être confondu avec plein d'autres espèces, et puis il a un chant finalement assez varié. Mais ce qui est sympa avec le rouge-gorge, c'est qu'il chante quand même tout l'hiver. Donc on peut se familiariser avec son chant toute l'année, et c'est même bien plus facile l'hiver, parce que moins d'espèces chantent l'hiver. Parfois on me dit « ouais, je commencerai les sorties avec toi au printemps, ça chantera plus ». J'ai dit non, surtout pas, il faut commencer l'hiver, parce que au printemps, quand tous les migrateurs sont revenus, tout le monde chante, marque son territoire, et donc on a une vaste symphonie, et il est difficile d'isoler chaque chanteur, en fait. C'est déjà un exercice de pouvoir isoler chaque son. Alors que le rouge-gorge, finalement, on l'entend tout l'hiver. Et pourquoi on l'entend tout l'hiver, le rouge-gorge? Parce que c'est un oiseau très territorial, que ce soit en période de reproduction, mais aussi en période d'hivernage. Et le rouge-gorge est une certaine population, notamment les populations du nord de l'Europe, Scandinavie, Allemagne, sont migrateurs. Donc ils vont venir passer l'hiver dans le sud de l'Europe,
et de ce fait côtoyer des rouges-gorges sédentaires qui vont passer l'hiver chez nous aussi. Donc il y a des petits conflits de territoire, même en hiver. Donc ces conflits de territoire, comment ils se règlent, comment on fait respecter son territoire, que ce soit en période hivernale mais aussi au printemps pour tous les oiseaux. Si les mammifères, eux, font un marquage de territoire avec des frottis sur les arbres, avec de l'urine, avec différentes techniques. Nous, on bâtit des murs ou des clôtures. Mais en fait, les oiseaux, eux, sont des barrières sonores. Et donc, c'est leur façon de marquer leur territoire. Donc, ils ont des postes de chant autour de leur territoire. Et ils vont chanter comme ça pour dire bah, « ici, c'est chez moi ». Et le rouge-gorge, lui, comme il est très, très territorial, il a un territoire qui n'est pas très, très grand, hein, mais il va chanter tout l'hiver.
Du coup, le printemps, pour toi, c'est le moment où tu commences à entendre toutes les espèces qui réapparaissent, en fait.
Alors, le printemps, bah, comme pour beaucoup de personnes, c'est l'arrivée des hirondelles. Hein. Moi, mon petit défi, c'est de voir une hirondelle pour le 20-21 mars. Sauf qu'hier, je faisais une animation dans un petit village là à côté sur les hirondelles, justement, pour montrer les nids, parler de tout un tas de choses avant l'arrivée des hirondelles. Mais dans le village, tout d'un coup, on comptait le nombre de nids sur les maisons et une hirondelle de fenêtre nous a survolé. Un 3 mars, incroyable. Les toutes premières hirondelles arrivent déjà. Après, les arrivées, c'est plutôt autour de fin mars. Et puis le printemps, ben, c'est tout ça, c'est toute l'arrivée des migrateurs, hirondelles, mais tous les autres. Donc par exemple, c'est le premier chant du pouillot véloce, de la fauvette à tête noire. Et puis ces espèces qui vont arriver par la suite, la huppe faciée, qui fait son oupoupoup, oupoupoup, facilement reconnaissable, un magnifique oiseau qui passe l'hiver en Afrique. Et puis après, plus tard, ça va être le rossignol. Mais lorsque le rossignol arrive, il emplit tout l'espace sonore. Et puis les rapaces qui vont arriver à partir du 15 mars, 15-20 mars. Donc là, c'est la pression monte un peu. Parce que chaque jour, quand on sort sur le terrain, à partir de début mars, eh bien, on est un peu dans l'attente de ces rendez-vous. Enfin, personnellement, chaque journée où je ne suis pas dehors, je me dis que c'est une journée où je manque quelque chose. Ce qui se passe tous les jours vont être différents. Bon, c'est vrai que c'est valable pour tout le reste de l'année. Mais au printemps, quand même, chaque journée apporte son lot de surprises avec l'évolution ben, de la végétation, des insectes. Le premier chant de la fauvette, le premier survol de l'aigle beauté, du circaète. Ben, c'est toujours un chouette moment. Et puis c'est le printemps qui va s'étirer jusqu'au mois de mai avec les derniers migrateurs qui arrivent.
Et est-ce que tu peux nous raconter comment ils migrent ?
Pour entreprendre le long voyage de la migration, il faut pouvoir disposer de quelques outils. Et les oiseaux possèdent ce qu'on appelle des compas biologiques. Donc ces compas biologiques, ce sont c'est le repérage à la position du soleil. Les oiseaux appréhendent un azimut, l'angle que fait le soleil avec l'horizon, le point vers lequel il se dirige. Des compas aussi stellaires pour les oiseaux qui ont migré de nuit. Nombre de passereaux vont migrer la nuit, vont s'alimenter le jour et puis se déplacer la nuit. Donc là, ils vont utiliser la voûte céleste pour se repérer, la position des étoiles. Et puis également un autre compas qui est le compas magnétique. Les oiseaux sont sensibles au champ magnétique terrestre. Après, bien sûr, ils se repèrent également à la géographie. Donc les fleuves, les montagnes, les villes. Et puis quelque chose auquel on ne pense pas forcément intuitivement, c'est l'olfaction. Les oiseaux sont capables d'élaborer une carte olfactive aussi des territoires qu'ils traversent. Ça, c'est valable aussi on le connaît bien sur les oiseaux marins qui sont capables de détecter les zones riches en plancton.
tu disais la dernière fois qu'ils suivaient les cours d'eau, en fait, que c'était quand même pour eux des routes qu'ils empruntaient.
Ouais, alors, les cours d'eau sont de grandes... on parle de corridors, et c'est des grands corridors migratoires, parce qu'autour des cours d'eau aussi, il y a souvent de quoi s'alimenter. C'est des zones qui sont riches en insectes, donc pour les insectivores, ils trouvent de la ressource. C'est en général aussi bordé de boisements, donc pour les oiseaux qui vont se nourrir d'autres oiseaux comme l'aigle botté ou les éperviers, ils vont pouvoir chasser dans ces zones-là aussi. Donc les fleuves sont de grands corridors migratoires. Oui. Donc les rapaces, en fait, on pense à la buse, mais il y a une grande diversité de rapaces, 15, 20 espèces dans la région. Et cette diversité, on la retrouve dans leur taille, bien sûr. Donc ça va du plus petit faucon cresserelle, qui fait à peu près 70 cm d'envergure, jusqu'au gypaète barbu, qui flirte avec les 3 mètres d'envergure. Et donc diversité dans la taille, diversité dans le régime alimentaire. Voilà, certains sont charognards, donc ne vont pas chasser, comme les vautours par exemple, et puis le gypaète. D'autres vont être de remarquables chasseurs, comme les aigles, et puis également l'épervier d'Europe. Et d'autres, donc eux vont chasser essentiellement des oiseaux, donc on dit qu'ils sont ornithophages. D'autres vont chasser des campagnols, des micro-mammifères dans les champs. Et puis d'autres espèces vont consommer plutôt des insectes. Donc diversité dans les régimes alimentaires. J'ai oublié le cirquette Jean Leblanc quand même, qui lui consomme 95% de reptiles, donc et même des couleuvres vertes et jaunes de grande taille. Hein. Donc lui spécialise des reptiles. Donc dans la diversité des rapaces, on parle des rapaces diurnes, mais aussi des rapaces nocturnes, qu'il ne faut pas oublier. Alors ils sont moins faciles à observer, bien sûr, on les entend la nuit. Donc il y a les chouettes et puis les hiboux. Donc le hibou n'est pas le mari de la chouette. Le hibou arbore des petites aigrettes, hein, ce ne sont pas des oreilles, ce sont des plumes sur le dessus de la tête. Donc chez les hiboux, on a le hibou petit duc, qui est un hibou migrateur, qui passe l'hiver en Afrique. Il est tout petit, la taille d'un merle à peu près. Passe l'hiver en Afrique et il va revenir chez nous au mois d'avril. Il n'est pas très très présent. Il est plus présent dans le sud de la région. Ensuite, le hibou moyen duc, lui, plus présent mais très discret. On le repère souvent à la présence des jeunes qui ont un cri très très grinçant. Et c'est un peu comme ça qu'on repère les hiboux moyen duc lorsque les jeunes sont nés. Et ensuite, le hibou grand duc. Donc le grand duc, lui, qui est le super prédateur. Il peut manger un aigle botté, par exemple. Une femelle aigle botté sur son nid, en train de couver, peut être attrapée par un hibou grand-duc. C'est le super prédateur des oiseaux.
En fait, c'est un super prédateur parce qu'il est très grand en taille, ou est-ce que c'est un super prédateur parce qu'il est hyper efficace ?
C'est un super prédateur parce qu'il est grand, déjà. 1m60 à 1m80-90 d'envergure. Donc les femelles sont plus grandes que les mâles. Donc c'est déjà très très grand pour un rapace nocturne, et puis il est hyper efficace. Il a des serres incroyables, il ne faut pas y mettre les mains. Hein. Et voilà, il est hyper efficace, très très puissant. Donc il peut même manger un héron cendré par exemple. Donc chez les rapaces nocturnes, on a les hiboux, mais on a aussi les chouettes. Donc les chouettes, on a la chouette chevêche, c'est la chevêche d'Athéna. Donc c'est la plus petite qu'on a dans la région. Donc elle, on va la trouver dans tous les milieux. On va la trouver sur des causses, on va la trouver en ville, en bordure de ville. Elle s'est bien adaptée aux bâtiments, donc elle peut nicher sous des tuiles, même dans des lotissements. Et puis en campagne, ce qu'elle affectionne particulièrement, c'est les arbres creux. Et puis elle a la particularité, la chouette chevêche, de pouvoir être entendue et vue le jour. C'est une chouette qui est relativement diurne. Et donc on peut l'observer très facilement le jour, notamment en début de printemps, lors de belles journées sans vent. Elle n'aime pas trop le vent. On la voit sur le faîtage des maisons, on la voit et on l'entend facilement, avec son miaulement assez caractéristique. Ensuite, on a la chouette effraie, l'effraie des clochers, qui, elle, ne va pas rechercher forcément des cavités proprement dites, elle va chercher plutôt des planchers, des endroits sombres. Donc, elle occupait beaucoup les clochers d'église, comme son nom l'indique. Malheureusement, les clochers ont été grillagés pour limiter la nidification des pigeons. Et donc, les fraies ne trouvent plus d'habitat. Donc, elle n'est pas en très bonne posture, la chouette effraie, avec beaucoup de mortalité sur les routes aussi. On en voit beaucoup écrasée sur le bord des routes. Donc, c'est la dame blanche, celle qui chuinte, hein, et qui effraie, comme son nom l'indique, par son chuintement.
Ça veut dire quoi, elle chuinte et...
Alors, le cri de la chouette effraie, c'est un un chuintement qui, dans les croyances populaires, du coup, effrayait les gens, et d'où ce nom d'effraie. Et puis ensuite, on a la chouette hulotte. Donc là, c'est celle qui ulule. Hein, donc ça, c'est le chant le plus connu, qui est, elle, plutôt forestière. Mais on peut la retrouver même en ville. Je connais des villes où, dans les allées de platane, on a la chouette hulotte qui se reproduit. Donc elle est plus grande que la chouette effraie.
Et Florence, si on veut apprendre à reconnaître les sons d'oiseaux, bien sûr, on fait des sorties, c'est le mieux. Mais est-ce que tu as des sites internet, peut-être, où on peut entendre des sons d'oiseaux et ça peut aider à l'apprentissage?
Oui, tout à fait. Alors d'abord, il y a les sites de la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux. Donc là, on peut avoir plein d'informations sur l'espèce qu'on recherche. Et puis un site aussi très bien fait qui est oiseaux.net. Donc on va avoir à la fois des informations sur l'espèce et aussi des chants. Mais pour les chants, vraiment, le site que je recommande, c'est la sonothèque du muséum. Donc pour chacune des espèces, on peut entendre tout un tas de cris et de chants qui sont enregistrés avec des enregistrements de très bonne qualité.
Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations passionnantes.
T'as entendu?
Et ça, c'est quoi?
Crac, crac, crac. Le jet des chênes. C'est le pic noir. Il a deux types de chants. Le chant en vol et le chant posé. Et ça, c'est le chant posé. Oh, il tambourine.
C'était Partons à la découverte des oiseaux, réalisé par Marie Cheneval. Un grand merci à Florence Couton de l'association Attire d'Aile pour ces moments passionnants.
C'était Parlons Nature, une émission de résonance sonore soutenue par la DRAC Occitanie. Retrouvez son podcast sur www.resonance-sonore.fr.